Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Mieux vivre dans un environnement plus sain et plus serein et préserver la planète, tel est l'objectif auquel une majorité de citoyens adhèrent. Car face aux canicules, aux sécheresses, aux incendies, aux inondations et autres événements climatiques extrêmes, la prise de conscience des coûts humains et financiers est plus largement partagée. Mais quand il s'agit d'engager des efforts au quotidien et de prendre sa part, force est de constater que tous ne peuvent pas supporter cet effort budgétaire. Alors, dans ce contexte de débat national, où l'environnement semble quelque peu relégué en programme de seconde partie de soirée, quelles solutions restent-ils ? Comment peut-on aujourd'hui financer sans douleur sociale la transition écologique ? Quel pacte gagnant peut être porté à l'échelle européenne ? Avec nous, trois invités qui avancent des solutions. Jean Jouzel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, climatologue et membre de l'Académie des sciences. À vos côtés, Pierre Larouturou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, ingénieur, agronome et diplômé de Sciences Po. Et tous deux, donc, vous êtes auteur avec Anne Essel du livre « Finance, climat, réveillez-vous », un livre paru aux éditions Indigène. Et également dans le studio avec vous, Benoît Leguet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de I4CE, l'Institute for Climate Economics, un think tank sur l'économie de la transition énergétique. L'environnement, oui, la facture, non. C'est le thème de notre émission aujourd'hui en partenariat avec la rédaction des pages Planète Sciences du Monde, préparée toujours minutieusement par Anaï Morales avec Anne Gouzon, Valérie Ernoux, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Jean-Frédéric, équipe de choc. Bonjour à tous et bienvenue.
L'eau est montée jusqu'à 1,80 m. Son stock est invendable. Il a perdu en 3 heures tout ce qu'il avait gagné en 4 ans, sans compter la comptabilité, les papiers.
C'est foutu. On a souscrit une assurance au minimum 5 000 €. Voilà. Donc l'assurance, elle nous rembourse que 5 000 €.
Alors que vous avez des pertes, c'est
Au moins 60 000 €.
Des entreprises à l'arrêt et des établissements comme cet hôtel pas prêts de rouvrir leurs portes. Les propriétaires, un jeune couple, y ont investi 100 000 € il y a un an à peine.
Le chauffe, on n'a plus d'eau chaude, on n'a plus de chauffage, toutes les chaudières sont HS.
Il leur faut nettoyer puis réparer et déjà les premières factures tombent.
17 000 € juste pour désinfecter les sols.
Pour lui, comme pour toutes les entreprises sinistrées, il est encore trop tôt pour chiffrer l'impact économique des inondations. En 1999, elles avaient coûté près de 580 millions d'euros.
C'était un reportage diffusé sur France 2 le 17 octobre 2018, un reportage tourné suite aux inondations survenues dans l'Aude. Le changement climatique impacte désormais nos vies, nos sociétés et nos économies, et les catastrophes, Jean Jouzel, se multiplient. Nous n'en sommes qu'au début.
Oui, en matière de, disons, d'évolution du climat, nous sommes sur une trajectoire telle qu'elle était envisagée par notre communauté il y a une trentaine d'années. Un réchauffement moyen de la planète entre 1 et 2 dixièmes de degré, et c'est depuis le, disons, début des années 2000, se superpose sur ce réchauffement moyen un accroissement, une intensification des événements extrêmes que l'on vit déjà. Alors nous sommes très prudents pour l'attribution de chaque événement extrême à, directement aux activités humaines, mais c'est clair que ces événements extrêmes s'intensifient, des cyclones plus intenses, on voit ces inondations, et surtout, ce dont nous sommes convaincus, eh bien, c'est qu'ils vont continuer à s'intensifier avec, à la clé, évidemment, des problèmes, aussi des problèmes de santé. Je peux, par exemple, citer un chiffre qui vaut pour l'Europe. Actuellement, en Europe, à peu près un Européen sur 20 chaque année fait face à un événement extrême. Dans le cas d'un réchauffement de 3 degrés, ce qui est possible dans la deuxième partie de ce siècle, eh bien, 2 Européens sur 3 feraient face à un événement extrême, avec en particulier des vagues de chaleur, puisque celles-ci s'intensifient 2 fois plus rapidement que les températures moyennes. Par exemple, en termes de victimes, nous sommes actuellement à 3000 victimes au niveau de l'Europe chaque année en moyenne. Alors, il faut oublier 2003. 2003, c'était 75 000 morts, c'était exceptionnel.
La canicule.
Je crois que nous n'étions pas bien préparés, mais le nombre de décès pourrait en moyenne, là aussi, au niveau de l'Europe, disons, être de l'ordre de 150 000 dans la deuxième partie de ce siècle, en cas de réchauffement climatique non maîtrisé. Donc, on voit bien sûr, ce sont les dégâts aux personnes, les dégâts aux biens. sont aussi risquent d'être plus importants, même s'il y a des moyens de prévention, des moyens d'adaptation. Mais ceci étant, nous sommes dans un monde qui va devenir, je dirais, de plus en plus agité. Donc ça va continuer sur ce réchauffement moyen qui va se poursuivre. Nous en avons encore la maîtrise. Vont se superposer des événements extrêmes de plus en plus intenses.
Donc, et notamment des impacts à venir sur les récoltes, les migrants du climat. Hein, il y a des rapports quand même qui donnent aussi des estimations extrêmement parlantes. Un rapport de la Banque mondiale de mars 2018 évoque 143 millions de migrants climatiques d'ici à 2050. Et l'ONU chiffre ces mêmes flux à 1 milliard de personnes.
Oui, c'est vrai que cette région de l'Aude, cette région du sud de la France, ces événements extrêmes très rapides, ces inondations extrêmement crues et claires, eh bien, n'empêchent pas que ces régions seront, la toile de fond, ça sera quand même plutôt des précipitations moindres, surtout le pourtour méditerranéen, aussi bien au nord qu'au sud, avec une évaporation plus importante, des risques de feux de forêt, et bien sûr, depuis le nord de l'Afrique, des risques d'augmentation des flux migratoires, c'est très clair. Donc là, disons, ces flux de l'Afrique vers l'Europe risquent de s'intensifier à cause du réchauffement climatique. Si ces régions ne peuvent plus assurer leur sécurité alimentaire, il y a aussi, bien sûr, des problèmes dans certaines régions côtières, mais c'est surtout cette sécurité alimentaire qui pourrait ne plus être assurée dans les régions du Sahel actuellement, qui vont dont la démographie va, disons, être assez active, eh bien, c'est vraiment un risque ce risque est bien là. C'est pas la seule région, bien sûr, où il y a des réfugiés climatiques, mais c'est celle dont nous sommes la plus proches.
Pierre Larouturou, vous donnez des chiffres aussi, hein, dans le livre, donc écrit avec Jean Jouzel et Anne Essel. Ces chiffres-là sont importants, c'est-à-dire les dommages, par exemple, engendrés par l'ouragan Harvey de 2017 à 2018, 125 milliards de dollars de dommages. En France, les pluies torrentielles de l'Aude, survenues donc dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, au-delà des vies humaines, hein, 15 victimes et 74 autres blessés, 220 millions d'euros de dommages. Donc c'est une guerre que l'on doit mener aujourd'hui,
oui,
sur tous les fronts.
Ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter les discours creux qui ne sont pas suivis d'action, il faut arrêter de juste se moquer de Trump. Nous, l'Europe, qu'est-ce qu'on fait ? L'Europe est quand même la première puissance économique mondiale. Si on fait le bilan depuis deux siècles, on est numéro un pour les émissions. Et comme vous l'avez dit, comme l'a dit Jean Jouzel, on commence à être touché. Il y a eu les inondations de l'Aude qui étaient catastrophiques. Mais souvenez-vous, il n'y a pas tout à fait deux ans, quand il y a eu des grandes inondations en Ile-de-France, la Seine débordait. C'était amusant pour les citadins. Mais dans les campagnes, ça provoquait des catastrophes quand le blé commence à pourrir ou ne se remplit pas quand il y a 20 cm d'eau dans les parcelles. Donc la récolte de blé en France et en Belgique a perdu 30%. Heureusement que l'Ukraine, la même année, a fait une très bonne récolte, parce que si l'Ukraine avait été touchée par les mêmes inondations, ou au contraire, par une canicule qui fait que le grain ne se remplit pas, on aurait des tickets de rationnement. Donc, faut pas croire qu'on est à l'abri de tout ça. C'est pas seulement les pays du Sud dans 50 ans. Si la même année, et l'Ukraine, et la France et la Belgique sont touchés, on a de gros problèmes pour notre prospérité quotidienne. Donc l'Europe aussi est maintenant vraiment concernée, mais sinon c'est dans les pays du Sud, j'en ai parlé, il parle souvent des problèmes de l'accroissement des inégalités provoquées par le dérèglement climatique. Moi j'ai été invité pendant deux jours à Bamako et je m'en suis pris plein la tête sur le niveau de pauvreté aujourd'hui et sur ce que prépare pour les 10-20 ans qui viennent la question du climat. Il parle du sida climatique, les scientifiques que j'ai rencontrés là-bas ou les ONG. Il y avait là un climatologue qui était fils d'une famille d'éleveurs dans le Sahel. La sécheresse qu'on vit en ce moment au Sahel est la plus grave depuis au moins 1600 ans. Et le vrai sida, le VIH, ça fait des milliers de morts dans ces pays, mais ils disent que le climat va faire autant de morts. Donc il faut qu'on arrête maintenant le discours, il faut qu'on déclare la guerre, qu'on se mette les moyens, et c'est la seule guerre qui ne fera aucune victime, c'est la seule guerre qui va éviter des millions de morts, c'est la seule guerre qui peut rassembler les peuples, c'est la seule guerre qui peut rassembler les riches de Malibu et les pauvres de Bamako, mais il faut se donner les moyens, le nerf de la guerre c'est l'argent, donc il faut se donner les moyens de financer. Vous avez cité le rapport de l'ONU qui dit qu'on va faire une catastrophe avec le nombre de réfugiés climatiques, mais l'ONU dit qu'il est encore possible de gagner la bataille, il est encore possible de gagner la bataille, mais en gros, il faut tripler nos investissements. Et aucun pays n'y arrive. En Allemagne, le gouvernement se déchire. Peter Altmaier doit préparer une loi sur l'efficacité énergétique. Il ne sait pas comment la financer. J'étais il y a quelques jours en Belgique. Le gouvernement dit qu'il ne sait pas comment financer la transition. Aux Pays-Bas, c'est pareil. Nicolas Hulot a démissionné parce qu'il n'avait pas le budget. Donc, une fois qu'on a compris que c'est grave, mais que c'est pas foutu, la question c'est comment est-ce qu'on crée une dynamique, en particulier en débloquant des financements.
Benoît Le Guay, c'est une guerre, mais c'est aussi la paix mondiale qui est en jeu.
La paix mondiale, ou en tout cas, disons, la stabilité, peut-être, pour utiliser un autre mot. Alors, pour rebondir sur ce qu'ont dit Jean et Pierre, dans ce qui a été dit jusqu'à présent, j'ai bien entendu l'aspect, tendance de fond. On sait que la température moyenne va augmenter, etc. On sait que le niveau des océans va monter, etc. Ça, on le sait déjà, et je veux dire avec une marge d'incertitude qui est je vais dire maîtrisable, en tout cas, disons compréhensible par des acteurs économiques. On a parlé également des événements extrêmes. Et donc ça, on sait qu'il y en aura plus. Alors quand, quelle magnitude, là, il y a des incertitudes. Et puis il y a une troisième petite couche de complexité, c'est ce que je vais appeler les événements de type feuille morte. Alors, enfin, en gros, les anecdotes. Les petits machins complètement anecdotiques qui font ressortir les points de fragilité de nos systèmes économiques. Donc typiquement le blé, que Pierre prenait en exemple. En fait, nous avons aujourd'hui des systèmes économiques, alors faisons confiance à l'économie, qui sont optimisés. Hypothèse très forte, j'en conviens, mais qui sont optimisés à climat constant, toutes choses égales par ailleurs. Le problème, c'est qu'on a un climat qui change avec des tendances de fond, des événements extrêmes, et puis des petits événements qu'on n'avait pas prévus. On n'avait jamais vu ça, vous savez la petite phrase, on n'a jamais vu ça. Bah oui, on n'a jamais vu ça, mais là maintenant il va falloir s'habituer à le voir. Et en fait, c'est tous ces petits événements qui peuvent faire ressortir des points de fragilité dans nos systèmes économiques et mettre en exergue, disons, bah, ce qu'on croyait acquis. Voilà, la stabilité, la paix, nos sociétés finalement peuvent être mises en cause. Pour donner un exemple vraiment un peu plus concret sur cet éclairage peut-être un peu théorique, les systèmes de transport. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement dépendants du transport. On ne s'en rend pas compte. C'est pas seulement le fait d'aller du travail à chez nous et inversement.
Dans tous les flux économiques, quand le transport est là partout.
Quand on habite Paris, on se nourrit et la nourriture en général n'est pas produite à Paris. Et en fait, toute notre économie est extrêmement dépendante du transport. Nous avons des systèmes de transport qui sont finalement très peu résilients. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait un tronçon, un segment d'un système de transport qui soit perturbé pour que finalement l'ensemble de l'économie soit perturbé. Quand il y a de la neige dans certaines parties de la France, les supermarchés sont vides à Paris. Pour les Parisiens, ça les touche, même s'il n'y a pas de neige à Paris. Voilà. Et finalement, c'est tous ces petits événements qui pourraient être autant de points de fragilité qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qui
servent de signaux d'alerte.
Des signaux d'alerte.
En sachant que les transports, c'est un bon exemple, puisque ce sont les transports qui génèrent le plus de gaz à effet de serre. Prise de conscience, en tout cas massive, c'est ce que je disais au début de cette émission, dans la société civile, on le sent, hein, notamment depuis effectivement la rentrée 2018, mais effort difficile à faire supporter aux citoyens, comme on l'a vu avec le déclenchement de la crise des Gilets jaunes. Je vous propose d'écouter cet extrait de la déclaration du Premier ministre Édouard Philippe, le 4 décembre 2018, c'était diffusé sur France Info.
Trois mesures fiscales devaient entrer en vigueur le 1er janvier prochain. La hausse de la taxe carbone sur l'essence, le fioul et le diesel, la convergence de la fiscalité du diesel avec celle de l'essence, et enfin, pour les professionnels, l'alignement sur la fiscalité des particuliers, de la fiscalité du gazole, des entrepreneurs non routiers, ce que l'on appelle le GNR. Après avoir entendu cette demande exprimée par à peu près tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au cours des consultations de ces derniers jours, je suspends, pour une durée de 6 mois, ces mesures fiscales. Elles ne s'appliqueront pas avant d'être débattues par toutes les parties prenantes. Nous voulons, dans ce laps de temps, identifier et mettre en œuvre des mesures d'accompagnement justes et efficaces. Si nous ne les trouvons pas, nous en tirerons les conséquences. Ensuite, j'ai entendu l'inquiétude sur les modalités du contrôle technique qui le compliquent et le rendent plus cher. Là aussi, je suspends cette mesure pour une durée de 6 mois, pour trouver les justes adaptations. Enfin, les tarifs de l'électricité et du gaz, qui devaient augmenter en début d'année, n'augmenteront pas durant la concertation et donc pas durant l'hiver qui s'annonce.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors des propos qui nous amènent sur le thème sûrement de la méthode qui veut réagir. En tout cas, la question c'est effectivement comment faire pour que la question environnementale ne pèse pas sur le budget des ménages. La méthode fut-elle à la hauteur par rapport à cette crise ?
Il y a deux conditions indispensables pour que la fiscalité écologique puisse être acceptée. On l'a montré dans différents pays où elle a été acceptée. C'est la première, c'est qu'il y ait ce volet effectivement social, c'est-à-dire qu'elle soit juste, que les couches les moins aisées de la population ne soient pas affectées, en tout cas pas exagérément affectées, même si elles doivent aussi être conscientes des efforts à faire. Et puis, disons, il est indispensable que l'on sache à quoi est utilisée cette fiscalité supplémentaire. Ce sont deux conditions, alors pas suffisantes, mais indispensables. Et en France, on n'a pas su ni dire de façon claire Bercy étant un trou noir, ce vers quoi étaient utilisées ou seraient utilisées ces recettes supplémentaires, ni effectivement accompagner cette mise en place de la taxe carbone, malgré l'effort de Christian de Pertuis, par un volet social, disons, à la hauteur.
D'où la démission, il faut le rappeler, de Nicolas Hulot, d'où la démission de Mathieu Orphelin, donc, qui sort du mouvement La République en marche. Ça dit beaucoup de choses sur ces questions de méthode. Pierre Laroutourou.
Oui, les deux conditions que Jean-José l'a rappelées sont très importantes. Il y en a peut-être une troisième ou une quatrième. J'ai été invité par les maires ruraux de l'Ain quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé. Ils étaient très intéressés par la question du climat, sinon ils ne nous auraient pas invités. Mais ils disent que dans ces villages, ceux qui ont un boulot, ils doivent forcément prendre la voiture. Il y a 30 km pour aller à Lyon le matin, il y a 30 km pour revenir. Donc un couple, si les deux ont la chance d'avoir du travail, ils font 120 km par jour. Et ils n'ont pas le choix. Il n'y a aucun transport en commun, il n'y a pas de travail à proximité. Il faut aller à Lyon ou dans la grande ville la plus proche. Il n'y a pas de transport en commun et il n'y a pas d'espace de coworking, comme on dit pour faire chic, où on peut travailler. Parce que s'il y avait des endroits où on peut travailler, peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller 5 jours par semaine au travail. On pourrait aller 2 jours par semaine au boulot et travailler dans un endroit où il y a Internet au débit, où on peut travailler. Donc ils disent, on est d'accord pour dire que le climat est en train de se dérégler. On voit les canicules à répétition. Nos agriculteurs ont dû commencer à donner du foin au mois d'août tellement il y avait de la sécheresse. Donc ils ne nient pas, il n'y a quasiment plus aucun climato-sceptique, mais juste, on ne met pas la charrue avant les bœufs, la carotte et les bâtons, il faut commencer par la carotte. Donc, est-ce qu'on investit des transports en commun? Est-ce qu'on invente des voitures qui consomment moins? Ce qu'on propose, nous, c'est qu'il y a un vrai plan Marshall, y compris un plan de recherche. L'Europe a mis des milliards pour faire Ariane et c'est un succès. L'Europe a mis des milliards pour faire Airbus et c'est un succès. L'Europe a mis des milliards pour chercher le boson de Higgs et on a trouvé le boson de Higgs.
Avec
et en chemin,
CERN.
On a inventé Internet et les écrans tactiles. Est-ce qu'on est capable de faire un effort d'investissement massif, d'isolation des bâtiments, si le prix du pétrole augmente, que les gens puissent réellement baisser leurs factures et qu'on développe des transports en commun, des façons de travailler plus près de chez soi, et là où on aura quand même besoin de mobilité personnelle, des voitures qui consomment beaucoup, beaucoup moins. Est-ce qu'on se donne les moyens de le faire? Quand Kennedy dit on va aller sur la Lune, il y en a qui pensent qu'il les fera pas dingue, mais 7 ans plus tard, on a gagné la Lune, le pays s'est retrouvé autour de cet objectif, on a créé 400 000 emplois. Donc est-ce que la question du climat, une fois que il y a 10 ans, il y a encore des gens qui avaient un doute. Claude Allègre a raconté n'importe quoi et ça semait le trouble chez les gens. Mais maintenant, il n'y a plus aucun doute. Mais est-ce qu'on passe joyeusement à l'action? Et parmi les gens qui soutiennent notre campagne pour avoir un traité européen qui finance la transition, on a l'ADEME qui nous dit que c'est solide ce qu'on propose, que ça va pas se faire en claquant dans les doigts, mais oui, c'est faisable et qu'on peut créer 800 000 ou 900 000 emplois rien qu'en France. Donc, dans un pays où il y a plus de 4 millions de chômeurs, si on peut en même temps agir sur le climat, faire baisser nos factures d'énergie et créer 800 000 emplois, c'est bizarre qu'on n'avance pas plus vite.
Benoît Le Gay, en France, le budget nécessaire pour financer la transition écologique a été estimé par I4CE, donc entre 45 et 75 milliards par an, soit 2 à 3 % du PIB. Et donc, vous soulignez que les investissements climat en France sont en hausse depuis 2014. Vous, quel est votre regard par rapport à ça? Bon, on va se poser la question, bien sûr, de où chercher cet argent. C'est quand même le nerf de la guerre. Mais voilà, une réaction peut-être sur à la fois la méthode, le côté social et les outils tout simplement que le monde politique devrait peut-être utiliser.
Déjà, quand on entendait le Premier ministre mentionner les différentes suspensions, bon, j'imagine que politiquement c'était la réponse la plus adaptée étant donné le contexte, on va dire. Donc je regrette cette suspension, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire d'autre? J'avoue, je ne sais pas. Et
pour calmer la rue.
C'était trop tard, fallait faire un geste. Peut-être pour rappeler que c'est la suspension de la hausse de la fiscalité carbone qui a été décidée. C'est pas la suspension de la fiscalité carbone tout court. On a toujours une taxe carbone en France. Également pour peut-être insister sur ce qui a déjà été dit par Jean et Pierre, je vais complètement dans leur sens. Ce qui a manqué dans cette affaire, c'est le narratif politique. C'est-à-dire, je ne parle même pas de fléchage, de dire un euro prélevé va à tel endroit exactement, mais c'est finalement quelle est l'histoire qu'on raconte. Pourquoi on augmente la fiscalité carbone? À quoi ça sert? Quel est l'objectif? Comment on fait pour accompagner? Moi, vous savez, je donne l'exemple en général des gilets jaunes, hein, parce que je porte un gilet jaune tous les jours pour me déplacer en vélo. Un gilet jaune, ça sert à deux choses. Hein. C'est pour des questions de visibilité et de sécurité. Et en fait, visibilité, bah, c'est ce que demandent les gilets jaunes, où on va. Et sécurité, c'est on veut être sûr que personne va rester au bord de la route. Donc finalement, moi, je suis très gilet jaune de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il faut informer les gens sur vers quoi on va, c'est quoi le narratif. Est-ce que la hausse de la fiscalité carbone sert à baisser la fiscalité sur le travail, à financer la transition énergétique? Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis sur ce qu'il faut faire, mais ce que je constate, c'est que dans tous les pays dans lesquels il y a une fiscalité carbone qui s'est mise en place avec succès, il y a un narratif qui a été inventé. En Irlande, ça a été la réduction de la dette publique. Il faut augmenter les prélèvements obligatoires. Et donc, on va en profiter pour taper sur la pollution. boom. Au Québec, ça a été, on va mettre en place un prix du carbone pour financer des investissements nécessaires à la transition énergétique. En Suède, ça a été, on va faire basculer la fiscalité du travail sur le carbone. En Suisse, ça a été, on va réduire le montant des primes d'assurance santé. On va les financer avec une augmentation de la fiscalité carbone. Alors vous me direz, le lien entre santé et climat n'est peut-être pas évident, mais Pierre et Jean, je les vois qui acquiescent. Il y a quand même un lien, il y a quand même un narratif, disons, à raconter.
Mais dans ces pays-là, justement, comment est-ce qu'on a réussi à faire passer ça? C'est-à-dire que, concrètement, les foyers se sont rendus compte qu'à la fin de l'année, ils avaient fait des économies eux-mêmes, que c'était rentable quelque part?
Pas forcément les foyers, mais en tout cas, il y a eu un narratif politique autour de ça, une transparence et surtout une redevabilité. Enfin, l'exemple que je donne toujours aussi, c'est l'exemple du ministre des Finances de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique a mis en place une taxe carbone et ils ont annoncé dans le narratif politique, dans le récit, ils ont dit un dollar canadien prélevé égale un dollar canadien rendu aux citoyens, aux ménages, aux entreprises, d'une façon ou d'une autre. Et le ministre des Finances de la Colombie-Britannique a conditionné 15% de sa rémunération à l'atteinte de cet objectif. À partir du moment où le ministre des Finances conditionne une partie de sa rémunération, on peut considérer qu'il va à peu près suivre le dossier. Peut-être simplement pour finir sur les investissements, pour aller droit au but là-dessus, ce qui manque là-dedans, c'est aussi la question de l'accompagnement, de la justice. Donc effectivement, il y a certainement une fiscalité carbone à repenser avec la question de la justice carbone. Sur les investissements, moi, il y a un truc qui m'interpelle quelque part, c'est quand on regarde le montant des investissements compatibles avec la transition écologique en France et le montant des investissements défavorables. En France, 40 milliards d'investissements chaque année, disons, favorables à la transition écologique. Super. Montant des investissements totaux en France, à peu près 400 milliards d'euros par an. Donc 400 milliards d'euros, dont 40 milliards de verts, et le reste, une couleur qui reste à déterminer. Du coup, quand on dit accompagnement, pour moi, c'est bien évidemment aider les personnes que Pierre décrivait, qui sont dans des situations dans lesquelles elles sont loin de leur domicile, etc. Enfin, loin de leur travail, elles doivent se déplacer, entre guillemets. Les aider à en sortir. Alors, je vais vous donner un chiffre qui, moi, me fait peur. En France, en 2017, la France, globalement, ménages, entreprises, ont investi 70 milliards d'euros dans des véhicules émetteurs et dans des chaudières à fioul. Donc ça, c'est les gilets jaunes de demain. OK? Donc, en 2017, on a investi 70 milliards dans les gilets jaunes de demain. Et dans le même temps, on investissait 40 milliards pour réduire les émissions, etc., se mettre sur la trajectoire de l'accord de Paris. Il y a un problème de cohérence des politiques publiques. Donc, la vraie question pour moi, c'est pas tellement mettre plus d'argent. C'est déjà arrêter les investissements marrons. Donc et comment, pour ça, il faut du courage. Savoir dire
obliger,
non.
Peut-être aussi. Alors, obliger, ça veut dire légiférer. On peut préciser que donc en 2015, l'article 173.6 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte a obligé les investisseurs à être transparents sur l'impact de leurs investissements en matière de climat. Ça, on pourra en parler avec vous, Benoît Leguet, parce que dans votre think tank, justement, vous travaillez sur tous ces rapports-là. Il faut rappeler que I4CE travaille justement à éclairer les décideurs, les investisseurs et à faire en sorte qu'ils prennent un peu plus conscience des impacts aussi sur leur propre investissement, des conséquences climatiques, des catastrophes à venir et qu'il y aura des répercussions et qu'ils ont plus à perdre finalement à ne pas investir dans le vert qu'à gagner.
Tout à fait. On a fait nôtre le titre de l'émission, donc c'est l'environnement oui, la facture non. On voudrait éviter qu'il y ait une facture dans quelques années.
Alors, demande d'un plan Marshall pour le climat, parce que l'argent existe. Pierre Larouturou, mais il ne va pas au bon endroit, il alimente la spéculation, booste les inégalités. Il faut quand même préciser, parce que c'est vrai que vous nous dites, on l'a fait, cette banque mondiale finalement, pour sauver le monde quand il y a eu la crise de 2008, mais pourquoi pas pour cette crise majeure qui touche l'humanité, donc cette crise climatique. Sauf que, selon les analystes économiques, on est à l'aube d'une nouvelle crise économique. Est-ce que ce n'est pas là une faiblesse supplémentaire?
Oui, c'est-à-dire qu'il faut, si on veut rattraper le temps perdu, il faut effectivement, ce que disait Benoît, utiliser mieux, limiter ou stopper les investissements bruns et orienter cet argent disponible. Et en même temps, il faut sans doute trouver de l'argent pour plus massivement isoler tous les bâtiments publics et privés, développer des transports en commun, aider l'agriculture à changer de modèle, développer les énergies renouvelables. Voilà, il faut s'attaquer. L'ONU, le GIEC nous dit que ça n'est pas trop tard, mais que c'est le dernier rapport de la Cour des comptes européenne dit qu'il y en a marre des scénarios où tout finit bien en 2050, parce que tout d'un coup, en 2040, on se donne les moyens financiers, et qu'en 2043, il y a le miracle technologique qui règle tous les problèmes. Donc, compter sur le fait que ça va bien se finir en 2050, parce qu'en 2040, tout va bouger, c'est juste se moquer du monde, se moquer de nous et de nos enfants. Donc, la Cour des comptes européenne dit, c'est en 2021 qu'il faut trouver les moyens, qu'il faut qu'on se donne les moyens de tripler, en gros, nos investissements. personne ne sait, à 1 milliard près. La Cour des comptes dit qu'il faut 1100 milliards chaque année, en comptant ce qui existe déjà, en comptant le fait que les banques...
À l'échelle européenne.
Voilà, au niveau de l'Union européenne.
C'est ça.
Le chiffre, honnêtement, il faut avoir un peu de modestie. Aucun de nous, quand vous sortez des chiffres, Benoît et son équipe, c'est très intéressant. Et à chaque fois, il y a une fourchette. Personne ne sait à 1 milliard près ce qu'il faut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer de braquet. Et la bonne nouvelle, vous l'avez dit, c'est que l'argent existe. Beaucoup de gens ne le savent pas, parce que c'est un peu technique et parce qu'aucun de nous n'arrive à suivre toute l'actualité, mais la Banque Centrale Européenne a créé 2 600 milliards depuis avril 2015. Personne ne conteste ce chiffre, mais il y a plein de gens qui ne le savent pas. L'autre jour, avec Jean Jouzel, on a fait une réunion commune, Élysée et Matignon, et un des grands chefs de Matignon, pas le Premier ministre, mais un monsieur très important, nous a arraché des mains la une du journal Les Échos qui annonçait que la BCE allait créer 1 000 milliards. Vous avez parlé de 2008, c'est un premier épisode. En 2008, pour sauver les banques, on avait mis 1 000 milliards. Et il a suffi de 2 semaines. Nos amis Alain Grandjean ou d'autres rappellent qu'en 2 semaines, on a réglé les problèmes juridiques. On a créé les structures pour porter cet argent. Et heureusement qu'on l'a fait. Il ne s'agit pas de critiquer, sinon le système financier s'effondrerait. Est-ce qu'on est capable de penser que la question du climat va un peu plus lentement, mais va nous provoquer des drames aussi importants? Donc il ne s'agit pas de faire plus de monnaie. Il s'agit, là, en ce moment, la BCE, la Banque Centrale, a tous les mois 80 milliards qui sont disponibles. Tous les mois, la Banque Centrale se dit, qu'est-ce que je fais de ces 80 milliards? Est-ce que je les prête encore une fois aux banques, avec le risque que les banques aillent sur les marchés financiers, parce que c'est très très rentable, beaucoup plus rentable. L'isolation des bâtiments, c'est fondamental pour notre avenir, mais ça ne crache pas du 20% par an. Donc si on laisse les banques complètement libres de faire ce qu'elles veulent avec ces liquidités, elles vont a priori aller vers les marchés financiers. Donc nous, ce qu'on propose avec Jean et maintenant avec des centaines de personnalités très différentes, on a en même temps Alain Juppé et la maire de Madrid qui est Podemos, on a été reçu par le pape il y a quelques jours, en même temps le Grand Orient, les francs-maçons nous soutiennent, on montre qu'on a en même temps Laurence Parisot et le patron de tous les syndicats européens, c'est rare que des gens si différents soient d'accord sur un projet, on dit on pourrait créer une banque du climat qui fait, on ne touche pas à la BCE, mais on crée une banque du climat au niveau européen qui utilise cet argent disponible et qui a pour obligation de fournir à chacun de nos pays une enveloppe. C'est l'économiste anglais qui dit qu'il faudrait, Nicolas Stern, qui dit qu'il faudrait 2% du PIB, que chaque pays, ce serait vraiment bien, ça permettrait de rattraper le temps perdu.
Prêt à 0%.
Prêt à taux zéro, et qui se réfléchit sur l'isolation des bâtiments publics et privés, sur les transports en commun.
Et sur 30 ans.
La France saurait qu'elle a chaque année 45 milliards d'euros à taux zéro, et donc le secteur du bâtiment. Quand Nicolas Hulot démissionne, il disait « je voulais 7 milliards chaque année pour isoler les bâtiments en commençant par les plus précaires ». Et bien, si on a un traité européen qui dit que la France a chaque année 45 milliards, ça veut dire que tranquillou, mais sans perdre de temps, on peut former des gens pour qu'ils soient qualifiés et on se dit qu'on a effectivement chaque année 7 milliards pour isoler des bâtiments et ça donne du boulot à des gens sur tous nos territoires. À Paris, mais aussi dans mon petit village des Pyrénées, on sait qu'on va systématiquement isoler tous les bâtiments. S'il faut 3 milliards chaque année pour aider l'agriculture à changer de modèle, on peut dire aux agriculteurs, franchement, on y va tranquillement, sans stress, mais sans perdre de temps. On va vous aider et vous aurez une aide financière pour changer de modèle. Donc c'est ce qu'on propose et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens, y compris maintenant au siège de la Banque européenne d'investissement, qui disent que c'est une très bonne idée. Je finirai en rappelant que quand le mur de Berlin est tombé en 1989, il a suffi de 6 mois pour que Helmut Kohl et François Mitterrand comprennent qu'il fallait un outil pour financer la transition. À l'époque, c'était pas la transition écologique, c'était la transition de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, mais ils ont compris que ça allait s'effondrer s'il n'y avait pas un outil spécifique. Et en partant de rien, en 6 mois, on a créé cette banque qui s'appelait la Bird. Donc aujourd'hui, on ne part pas de rien. Il y a un savoir-faire dans tous nos pays, la Caisse des dépôts, la KfW, il y a un savoir-faire. On peut créer en moins d'un an une banque du climat qui donnerait ses financements et cette stabilité et ça changerait tout. L'Europe pourrait montrer qu'on avance. Et du coup, même si Trump bloque les négociations internationales, l'Europe aurait un moyen de financer un plan Marshall pour l'Europe et pour l'Afrique. Et peut-être qu'un an plus tard, le Japon dirait, ben nous, on fait pareil. On a aussi une banque centrale qui fait beaucoup trop d'argent. On a aussi des catastrophes climatiques. Donc, notre objectif est de faire la preuve sur le territoire européen qu'on peut vivre bien, un air plus sain, une alimentation plus saine, que ça n'est pas une purge à avaler, que ça peut créer des emplois et qu'il y a un effet de domino pour que d'autres zones du monde fassent pareil.
Alors, quand vous dites « on peut créer », on sait qui a le pouvoir aujourd'hui de lancer cette banque. Et on a bien compris, effectivement, dans votre livre, qu'on est plus rapide si on crée une nouvelle banque que si on s'assoit sur une banque existante. Je crois qu'en plus, on gagne du temps en efficacité.
L'idée, c'est que c'est au chef d'État de le faire. Et oui, ça tombe bien, Mme Merkel a redit il y a quelques jours que l'Europe allait mourir si elle n'avait pas un nouveau projet. Emmanuel Macron, Pedro Sanchez, M. Rutte sont tous d'accord pour dire qu'il faut dessiner un nouveau projet un peu excitant pour l'Europe. Et nous, ce qu'on dit, c'est que l'Europe est née avec le charbon et l'acier. Schuman, Adenauer, c'était génial, et qu'elle pourrait renaître avec un traité climat et emploi. Et donc c'est dans les semaines qui viennent que ça doit se décider. En principe, c'est le sommet du 21 mars et du 22 mars à Bruxelles où les chefs d'État doivent dire qu'est-ce qu'ils mettent dans les prochains traités.
Jean Jouzel, votre sentiment, parce qu'on a bien compris qu'avec Pierre Larouturou, vous avez été reçu dans différentes instances au niveau du gouvernement, dans des ministères, etc., François de Rugy et d'autres, ou au Sénat. Qu'est-ce qu'on vous a dit?
D'abord, ma conviction, c'est, je ne suis pas économiste, mais ça m'intéresse beaucoup, ma conviction, c'est, je crois qu'on n'arrive pas au même chiffre, aussi bien du côté de Benoît que de Pierre, c'est-à-dire cette nécessité, aussi de Nicolas Stern, d'investir plus dans la lutte contre le réchauffement climatique de l'ordre de 2% du PIB. Et c'est bien sûr pour ça que je soutiens, cette initiative. Et je suis vraiment, je pense que c'est la seule façon que l'Europe devienne le leader de la lutte contre le réchauffement climatique. Il y va aussi, je crois, du développement de nos sociétés, de l'attractivité du monde de demain pour nos jeunes. Parce que réussir cette transition, c'est aussi, moi je crois franchement, beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité, pas simplement en termes techniques, technologiques, mais aussi en termes de, disons, carrément de conception de notre société, en termes sociétal. C'est aussi beaucoup de recherche. Et tout cela, je crois que ce que je voudrais aussi dire, c'est que ce monde qui est celui de demain, je l'espère, de transition énergétique, de réelle transformation, doit être aussi attractif pour les jeunes. Ça, c'est un premier point. L'autre, c'est que, bien sûr, nous avons sur cette planète trois grands blocs, la Chine, les États-Unis et, l'Europe. C'est au niveau de l'Europe qu'on peut vraiment agir. La France a bien sûr son rôle à jouer. Chaque pays a son rôle à jouer. La France, c'est 1% des émissions. L'Europe, c'est de l'ordre de 10%. Donc, il y a cette nécessité d'agir. Parce qu'il faut quand même rappeler, je le ferai très brièvement, le défi auquel on fait face. Disons, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, on va vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Avec l'accord de Paris dans sa forme actuelle, nous sommes partis plutôt vers 3 degrés à la fin du siècle, autour, dans le meilleur des cas. Donc c'est quelque chose qu'il faut tout faire pour éviter. Et le dernier rapport du GIEC nous dit que, bien, pour avoir des chances de rester autour de 2 degrés, de stabiliser autour de 2 degrés, l'accord de Paris ne nous fait faire qu'un tiers du chemin en termes de réduction. Et pour 1,5 degré, ce n'est qu'un cinquième du chemin. Donc ce n'est qu'une première étape. 1,5 degré, disons une augmentation de la température limitée à 1,5 degré par rapport à aujourd'hui, ce serait pratiquement divisé par deux nos émissions de gaz à effet de serre, ou presque par deux, entre 2020 et 2030. On voit bien, c'est vraiment un défi immense. L'Europe n'y arrivera pas toute seule, mais elle doit servir de force d'entraînement.
Et financer cette guerre à gagner.
C'est un premier pas, ce n'est pas non plus suffisant. Il faut emmener l'ensemble de la planète, l'Afrique, les grands pays. Mais moi, je pense qu'il faut le faire. Si on ne fait rien, on n'y arrivera pas. C'est très clair qu'on est parti vers au moins 3 degrés et encore en étant optimiste.
Alors, il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, Jean Jouzel, mais Pierre Larouturou pourrait aussi le faire parce que ça vous concerne tous les deux. Qu'est-ce qu'on vous a dit en haut lieu? Est-ce que vous avez eu le sentiment que vos paroles portaient, qu'on vous répondait franchement? Parce que, je reprends la phrase, Pierre Larouturou qui est dans votre livre, à tous les deux, avec Anne Hessel, il faut arrêter les discours creux, arrêter les rustines, déclarer la guerre au dérèglement climatique. Voilà, qu'est-ce qu'on vous a répondu?
Nicolas Hulot, avec qui on en a discuté, beaucoup d'intérêt. J'ai depuis discuté aussi avec François de Rugy. J'ai eu l'occasion de rencontrer Brune Poirson qui m'a dit effectivement que le secteur financier était vraiment le secteur clé. Et ça, je le pense aussi. Je m'investis pas mal. Enfin, quand je réponds aux sollicitations du secteur financier, il y a aussi un intérêt très fort. Le secteur financier détient, en dehors de notre projet, je veux dire, au-delà, le secteur financier détient la clé de la lutte contre le réchauffement climatique. On voit bien, ce ne sont pas que des investissements. Il y a aussi tous les problèmes des désinvestissements, du charbon, du pétrole, des combustibles fossiles. Donc c'est tout un... Vraiment, et c'est cela. Alors je crois qu'il y a quand même une écoute, en tout cas au niveau de nos gouvernants. On a aussi rencontré, comme l'a dit Pierre, des personnes à Matignon et à l'Elysée. Mais c'est vrai qu'après, c'est une décision politique au sens le plus haut du terme. Ce projet de traité, il faut qu'il soit emmené
par le président et le Premier ministre.
C'est pour ça qu'il faut que les citoyens se mettent en mouvement. Ce qui se passe en Belgique est excitant. Parce qu'il faut qu'on pousse Mme Merkel, M. Macron, à l'audace. Quand on est reçu au Bundestag, quand on voit les ambassadeurs sans trahir le secret des discussions, tout le monde nous dit c'est très très intéressant. Oui, c'est faisable, mais si ça n'est pas porté au plus haut niveau, j'ai vu quelqu'un l'autre jour au ministère à Berlin, le ministère de l'Environnement, quelqu'un de très haut placé qui me dit mais une banque du climat, j'en rêve depuis des années, mais ma ministre n'a pas le poids pour le porter, ou bien c'est Merkel et Macron, ou bien ça ne se fera pas. Pour le moment, on a un chef d'État qui est vraiment d'accord avec nous, qui est le nouveau président du gouvernement espagnol. Pedro Sanchez et sa ministre Teresa Ribera sont très convaincus, mais ils ne peuvent pas faire bouger les choses seuls. Donc, ça bouge, hein. Il y a un an, personne ne connaissait ce projet. Là, on vient de passer les 220 députés en France, 220 députés, toutes tendances confondues, sauf le Front National qui nous soutiennent. Depuis cette semaine, là, il y a quelques jours à Bruxelles, suite aux manifs de jeunes, c'est des citoyens. Vous avez vu ces manifs. Il y a deux semaines, c'était juste magnifique. Les ONG avaient dit mais non, les gens ne viendront pas, il fait froid. Les syndicats avaient dit mais non. Et c'est juste quatre citoyens qui ont dit on va maintenir l'appel à la manifestation. Et il y a eu plus de 70 000 personnes, comme dit la police belge. Donc c'est une manif énorme, joyeuse. Il y avait des gens de toutes les générations. Du coup, maintenant, les syndicats se remettent en mouvement. Et là, il y a quelques jours, une députée centriste a déposé au Parlement de Bruxelles un texte pour demander au Premier ministre, M. Charles Michel, de mettre ce sujet sur la table des négociations le 21 mars et le 22 mars. Donc ce serait marrant, on parle toujours de Merkel et Macron, ce serait marrant de voir que ce soit Charles Michel, qui est un Premier ministre sans gouvernement stable, qui mette ça sur la table. Non mais voilà, l'autre jour, très bonne nouvelle aussi, c'est parmi les gens qui nous soutiennent, il y a Sandro Gozzi, l'ancien ministre italien des Affaires étrangères, des Affaires européennes. Un ami lui disait, ce sera une façon de piéger Salvini si d'autres pays proposent ce traité climat. Et Sandro Gozzi a dit mais non, vous vous trompez, sans doute le gouvernement italien accepterait ça. Ok, il passe leur temps à critiquer l'Europe, mais quand on voit les canicules à répétition, quand on voit la façon dont la ville de Rome a été privée d'eau rationnée il y a 18 mois, Sandro Gozzi disait s'il y a 4 ou 5 pays qui le mettent sur la table de négociation, on peut arriver très vite à 13 ou 14 pays. Donc sans doute on n'aura pas l'unanimité, peut-être qu'au début il y aura seulement 13 ou 14 pays, mais ça aurait de l'allure, pour rester poli, ça aurait de l'allure, c'est déjà 13 ou 14 pays disaient on y va au maximum, et puis on n'a pas beaucoup dit, mais il y a un plan Marshall pour l'Afrique dans ce qu'on propose, il y a un financement massif pour nos pays, pour nos territoire, mais il y a aussi un plan Marshall pour l'Afrique pour permettre à l'Afrique de se développer économiquement, d'avoir accès à plus d'énergie, mais que ce plus d'énergie ne soit pas plus de CO2.
Benoît Leguet.
Pour rebondir sur ce qu'ont dit Pierre et Jean, alors je serai à la fois moins révolutionnaire et plus radical qu'eux. Moins révolutionnaire parce que je ne suis pas persuadé que créer une nouvelle institution serait utile, je vais expliquer pourquoi. Et plus radical parce que je pense qu'il faut réformer avec un R majuscule les institutions existantes. Mais en gros, pour faire très simple, si on crée une banque du climat, qui serait une banque verte, et qu'à côté, on ne muselle pas les autres institutions.
On n'a pas dit ça, Benoît. On n'a pas dit qu'on allait faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on a créé Arte et France Culture que les autres font des trucs, sont obligés de faire des trucs débiles. On peut aussi mettre de l'intelligence sur d'autres.
Mais l'idée, c'est bien de faire plus de vert.
On partage,
c'est ça. Et en même temps, comme dirait l'autre, moins de marron.
On est d'accord à 100%.
Donc ça c'est vraiment. Donc c'est pour ça que.
Benoît Legalis.
Moi, mon intuition, ça serait plutôt réformons, mais assez abruptement, les institutions existantes. Pour donner quelques exemples pour éclairer ça. Aujourd'hui, quand on regarde le financement qui est apporté par les banques de développement, qu'elles soient multilatérales, bilatérales, nationales, etc., on arrive à peu près à 230 milliards d'euros par an. Donc chaque année, les banques de développement apportent, y compris Baird et compagnie, apportent 230 milliards d'euros climat. C'est super. C'est 25% de leur financement. Les 75% restants, qu'est-ce que c'est ? Alors, bonne question.
Donc ce que vous craignez, c'est que finalement, il y ait le développement d'une super banque vertueuse, mais à côté que l'autre système perdure et qui serait nocif effectivement pour le climat. On va continuer la discussion dans un instant, Edouard Leguet, si vous voulez bien, parce que c'est votre choix musical qui va être sélectionné. Sweet Home Alabama, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce choix ?
Alors déjà, c'est une chanson d'un groupe américain. Pierre avait commencé à dire, on peut pas simplement dire se moquer de Trump et rien faire chez nous. C'est un peu ça. Les Américains, c'est bien pratique tant qu'ils sont dans le jeu, parce que c'est facile de dire, tant qu'ils font rien, on bouge pas. Une autre raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, c'est parce que on parle donc dans la chanson du ciel bleu d'Alabama, et voilà que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis pour moi, les États-Unis, c'est le pays des contradictions. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce titre. Le style musical, quand vous l'écoutez, c'est ce qu'on appelle du rock sudiste. Alors rock sudiste pour les amateurs, c'est un mélange de rock et de musique country, c'est-à-dire la musique des esclaves noirs et la musique des descendants d'anglo-saxons, blancs, etc. Donc cette fusion, ce syncrétisme, moi je trouve ça très intéressant. Ça parle en plus d'un État, l'Alabama. Donc à une époque, les années 60 en Alabama, vous voyez un peu le contexte. On a quand même un gouverneur qui est mentionné dans la chanson, qui s'est opposé physiquement à l'entrée des premiers étudiants noirs dans l'université, tout en se réclamant d'une mouvance chrétienne assez fondamentaliste. Donc je trouve, quelque
beaucoup
part...
Beaucoup de symboles, hein.
C'est le pays des contradictions, et je trouve ça fabuleux, parce qu'en fait... Nous sommes tous des Américains. Nous sommes tous pleins de contradictions. Nous voulons en même temps avoir un désir de mobilité et ne pas émettre. Nous voulons avoir une voiture et nous voulons pouvoir aller à l'autre bout du monde, etc. Nous avons, mais nous, citoyens, et moi le premier, nous avons des désirs qui sont incohérents. Donc je me mets à la place des pauvres politiques qui doivent ensuite prendre les désirs de 70 millions de Français, les désirs incohérents, et en faire un tout cohérent.
Ah, on verra à l'issue du débat national, effectivement. Plongeons dans Sweet Home Alabama.
Turn it up.
Alabama, le choix musical de Benoît Leguet. Et c'est la suite de notre émission De Cause à Effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui au financement de la transition écologique, aux solutions possibles pour financer cette crise climatique que nous traversons. Et nous en discutons avec le climatologue Jean Jouzel, l'économiste Pierre Larouturou. Tous deux, je le rappelle, auteurs avec Anne Essel du livre Finance Climat, Réveillez-vous, un livre paru aux éditions Indigènes. Et avec Benoît Leguet, directeur général du think tank I4CE. La suite de notre discussion dans un instant, ce sera juste après notre revue d'info environnement. Et parmi les nouvelles de la semaine, la bataille judiciaire qui se poursuit entre le paysan français Paul François et la firme Monsanto. Gravement intoxiqué en 2004 par le Lasso, un herbicide de Monsanto, le céréalier charentais entame son quatrième procès après avoir obtenu gain de cause en première instance et en appel. Mais Monsanto s'étant pourvu en cassation, l'affaire a été à nouveau renvoyée devant la cour d'appel. La longue bataille judiciaire reprend, suivie avec attention par d'autres victimes. Pour rappel, le Lasso, interdit au Canada dès 1985, puis en Belgique et au Royaume-Uni en 1992, ne le fut en France qu'en 2007. Autre nouvelle d'importance, direction le Brésil, où une équipe internationale de chercheurs liée à l'IRD et au Lagos, deux centres de recherche français, a réussi à quantifier les eaux souterraines du bassin de l'Amazone. Une première mondiale et un enjeu vital. Difficile d'accès, l'état des nappes phréatiques de ce bassin restait quasi inconnu. Or, ce résultat donne l'espoir de pratiquer ces mêmes études ailleurs, comme en Inde ou au Sahel, par exemple, où les nappes phréatiques sont régulièrement touchées par la sécheresse et influencées par la pression anthropique. C'est à lire sur le site France Diplomatie du 5 février dernier. Qui remporte la palme du moins de notre sélection de la semaine, l'année 2018? Et oui, la palme du moins, la quatrième année la plus chaude de l'histoire. Selon l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, nous vivons les années les plus chaudes depuis le début de l'ère industrielle et les premiers relevés en 1850. Et 2018 se classe juste après 2016, suivi de 2017 et 2015 ex aequo, en cause les émissions records de gaz à effet de serre. À lire l'article de Audrey Garic sur lemonde.fr. Et le plus de la semaine revient à une étude publiée par l'université de Hong Kong et celle d'Auckland en Nouvelle-Zélande qui montre que les enfants en contact étroit avec la nature présentent un comportement prosocial et des capacités cognitives, sensorielles et émotionnelles plus importantes. Étude qui vient d'ailleurs s'ajouter à celle menée l'an dernier par le Centre pour la recherche en épidémiologie environnementale de Barcelone. Article très intéressant, là encore à lire sur le site La Relève et la Peste en date du 2 février.
France Culture, De Cause à Effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Messieurs, une réaction à la rue de presse où on continue le débat sur ce qui nous anime quand même.
Non, juste le lien avec la nature qui est fondamental à tous les âges de la vie. Ça, c'est à coup sûr, ça nous fait tous du bien. Et plus on tombe dedans quand on est petit, c'est comme Obélix, ça donne une force pour le restant de la vie.
Jean-Joseph.
Oui, la réalité du réchauffement climatique, bien sûr. Et puis c'est peut-être anecdotique dans ce contexte, mais pour la France, 2018 a été l'année la plus chaude que nous ayons connue depuis 150 ans. Donc c'est évidemment la température mondiale qu'il faut prendre en compte, mais nous avons vécu une année chaude.
Benoît Leguet.
Oui, peut-être un peu comme Pierre, le lien avec la nature, peut-être pour rappeler que, comme le disent les ingénieurs agronomes, sans agriculture, il n'y a rien. Et j'aurais tendance à dire sans nature, sans environnement, il n'y a rien. En fait, c'est ce qui sous-tend toute notre activité économique.
Il y avait une grande réunion à Bruxelles là, sur un pacte mondial pour l'environnement, et le patron de tous les syndicats européens disait qu'il n'y a pas de salariés heureux, ni d'actionnaires heureux dans une nature morte. Si la planète meurt, il n'y aura ni salariés, ni retraités, ni journalistes de France Culture heureux. On a tous envie de gagner la bataille.
Ah bah oui, surtout quand vous le dites comme ça. Benoît Leguet, reprenons sur le thème justement, proposition faite par Jean Jouzel, Pierre Larouturou et tous ceux qui les soutiennent, on a compris qu'il y avait quand même un collectif important derrière vous, pour créer une nouvelle banque et cette banque qui aurait la capacité d'offrir les financements pour passer, en tout cas mettre en place cette transition écologique. Votre inquiétude concrètement, c'est les banques parallèles, les investisseurs parallèles. Ce que vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, il y a trois dimensions pour les investisseurs. Il faut qu'ils soient capables de mesurer l'empreinte carbone des portefeuilles d'investissement, mesurer les risques climatiques, mesurer leur contribution à la lutte contre le changement climatique. Vous qui êtes plongé au cœur de ces problématiques, est-ce que vous avez le sentiment que on est loin du compte, qu'il n'y a pas de prise de conscience objective ou ou subjective d'ailleurs.
Alors on est encore loin du compte, hein. C'est-à-dire que pour le dire vraiment à gros traits, les institutions financières commencent à comprendre que ne pas traiter le changement climatique peut devenir un risque. Il y a un risque dit de transition, c'est-à-dire finalement, si la transition énergétique se met en marche, enfin la transition climat entre guillemets se met en marche, et que vous restez à financer du fossile et autres, bah, vous risquez d'avoir une perte de valeur, donc ça présente un risque financier. Deuxième chose, les institutions commencent à comprendre, mais elles le comprennent aujourd'hui très mal, qu'il y a un risque lié au changement climatique lui-même. C'est-à-dire finalement, le changement climatique va impacter la valeur des actifs. Je parle comme un financier, hein, je suis désolé.
Et il faut préciser, quand on parle des investisseurs, ce sont les banques, mais les assurances enfin, aussi. Voilà,
banques, assurances, voilà, investisseurs, bref, l'ensemble de la chaîne de valeur financière.
C'est ça.
Et finalement, enfin, ce risque physique est très, très mal compris. J'en parlais tout à l'heure de plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 degrés. Alors, je vais faire, peut-être, je vais horrifier Jean avec mes approximations scientifiques, mais en gros, plus 5 degrés en 200 ans, c'est à peu près, c'est 100 fois plus vite que ce qui nous sépare des mammouths à la louche. Hein. On a pris 5 degrés en 20 000 ans, et là, on se dit, l'accord de Paris, globalement, nous emmène 3 degrés en 100 ans, c'est-à-dire 5 degrés en 200 ans. 100 fois plus vite. Alors, vous comprenez la différence entre aller dans un mur à 1 km/h et aller dans un mur à 100 km/h. Aujourd'hui, le secteur de la finance n'a pas complètement compris la magnitude de l'impact physique. On se dit joyeusement qu'on va perdre peut-être 10 à 20 points de PIB, et ça sera très grave.
Alors, ils n'ont pas compris par manque d'informations ?
Par manque d'informations, peut-être, et puis et c'est là où on revient sur les discussions, est-ce qu'il faut créer des nouvelles institutions ou autres, c'est aussi parce que les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui ne sont pas complètement gréées pour prendre en compte ce type de risque. Quand vous êtes une institution financière, vous voyez ça d'un peu loin, vous avez deux types d'indicateurs. Vous avez des scénarios type GIEC, mondiaux, à long terme, et puis vous avez des indicateurs météo qui sont donnés par Météo France ou d'autres, donc court terme et très locaux. Et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Enfin, quels sont les indicateurs pertinents pour faire des indicateurs avec un horizon de temps qui est à peu près commensurable avec celui de votre horizon d'investissement, donc quelques décennies, local, mais pas trop, mais quand même un petit peu local, parce que votre actif, il est bien localisé à un endroit. Et donc finalement, les institutions financières aujourd'hui appréhendent très, 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 très mal ce risque. Et ensuite, une fois qu'on a les bons indicateurs, la question, c'est comment on fait rentrer ça dans l'évaluation des risques par une banque. Et alors c'est là où on va retrouver, il y a tout un système, disons, qui vise normalement à ce que les banques prennent en compte les risques, qui fonctionnent parfois bien, parfois moins bien. Mais en tout cas, c'est là-dedans qu'il faut faire intégrer, c'est là le cœur de la machine. Et c'est là où la Banque Centrale Européenne, mais avec son rôle de superviseur bancaire, peut avoir un rôle à jouer. Et j'allais dire, devrait avoir un rôle à jouer, pour être un peu plus prescriptif.
Pierre Larouturou ?
Je pense qu'on est complètement d'accord pour dire que ça devient urgent et qu'on ne peut pas compter juste sur la bonne volonté des acteurs qui sont complètement schizophrènes, sinon comme adultes, citoyens, parfois ils sont dans les manifs le dimanche pour dire que la planète brûle, et puis après ça, du lundi au vendredi, comme ils sont payés, comme leur évaluation se fait en fonction de leur rentabilité par rapport aux concurrents, ils continuent. Mais on connaît tous des gens que le système rend schizophrène. Après la crise de 2008, on a quand même un tout petit peu changé les règles du jeu parce que les banques n'étaient pas capables de le faire spontanément. Il y a un organisme de régulation, ce dont Benoît vient de parler, qui est basé à Bâle, en Suisse. Et donc, on a changé les règles du jeu en disant les banques ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il faut quand même des fonds propres un peu plus solides. Donc, est-ce que pour éviter une nouvelle crise financière et pour éviter qu'on fasse n'importe quoi sur le climat, sur la biodiversité, on n'en a pas parlé, mais les deux sujets sont fondamentaux, est-ce qu'on est capable de changer les règles du jeu? Et donc, juste pour rassurer Benoît, il ne s'agit pas, à nos yeux, de choisir entre est-ce qu'on crée un nouvel outil et est-ce que la France a chaque année 45 milliards au lieu que l'argent de la BCE aille à la spéculation. Nous, l'exemple qu'on prend dans ce petit livre, c'est contre le sida, on n'a jamais trouvé la baguette magique. Il n'y a aucun médicament qui, tout seul, est capable de foutre KO le virus du sida. Par contre, on a fait un progrès fabuleux, en tout cas dans les pays du Nord où les gens ont accès à ces médicaments, à ce qu'on appelle la trithérapie. Quelqu'un qui a chopé le virus du VIH, tous les matins, il prend ses trois médicaments et les trois médicaments ensemble sont capables d'empêcher la réplication du virus. Donc sur la question du climat, vu la gravité des problèmes, il faut en même temps, ce que dit Benoît, accélérer vraiment le fait qu'on stoppe les investissements bruns, changer les règles du jeu, se dire que dans 20 ans, par la loi, s'il y a un débat, si les gens comprennent, et de plus en plus ils le comprennent, on peut dire, c'est pas dans 3 semaines, mais dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés, publics et privés, et on va donner des financements. L'Europe pourrait payer la moitié de la facture, donc au lieu d'avoir 25 000 euros de dépenses par famille, ce serait seulement 10 000 ou 12 000, et du coup, c'est possible, avec les économies de chauffage, de rembourser un prêt à taux zéro. En même temps, par la loi, dire qu'on arrête de construire en béton, c'est surréaliste, quand vous voyez le bilan d'un immeuble en en béton, ça fait une quantité de CO2 monstrueux, alors qu'on peut faire des immeubles en bois qui sont maintenant magnifiques, moins fatigants pour les ouvriers à construire et qui vont stocker du CO2, du carbone pendant un siècle. Donc c'est ahurissant, pourquoi est-ce qu'on continue dans tous nos pays à faire des immeubles en béton et en ferraille au lieu de faire du bois? Donc changer les règles du jeu, c'est-à-dire que dans 15 ans, il n'y a plus aucune voiture qui peut rouler si elle produit tant de CO2, et du coup ça donne une orientation à notre politique de recherche.
Et tout ça avec une justice sociale. Jean Jouzel, est-ce que le GIEC a un rôle à jouer, selon vous, sur ce terrain-là? C'est-à-dire que le GIEC, avec ses rapports, n'a-t-il pas intérêt peut-être à éclairer, à l'image de Benoît Leguet avec son think tank, à éclairer les investisseurs? Vous le dites vous-même, le nerf de la guerre, il est là, et ce sont eux qui finalement ont la solution entre leurs mains.
Oui, je crois, et le GIEC le fait. Il y a des économistes qui sont impliqués dans le GIEC, qui essayent d'évaluer les risques, disons, pour nos sociétés. Il n'y a pas que les risques physiques, c'est ça, et d'ailleurs, c'est bien documenté dans le GIEC. Il y a les risques sociétaux qui sont tout aussi importants. La première conséquence du changement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Donc on va parler d'accélération de la pauvreté. Et je pense que pour le système dans lequel nous vivons, ce risque d'accroissement des inégalités entre pays pauvres, entre, on voit bien dans le cas des Gilets jaunes, entre, disons, des fiscalités qui ne sont pas adaptées, eh bien ce risque sociétal est tout aussi important que le risque physique, et il y a un risque de déstabilisation de nos sociétés, des risques de conflits dans certains pays qui sont cités dans le GIEC. Tout ça, c'est bien documenté. Il y a un chapitre sur la pauvreté. Donc tout ça, c'est fait dans le GIEC. Oui, effectivement, il faut aller chercher, mais je crois qu'il y a dans le GIEC matière à réflexion, aussi bien sur les risques physiques que Benoît et Pierre ont mentionné, mais que ces risques sociétaux au sens large. Il y va vraiment de l'avenir, d'un développement harmonieux de nos civilisations, c'est très clair pour moi, pour les jeunes d'aujourd'hui.
Pierre Larouturou, vous vouliez réagir?
Oui, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de climatologues qui disent que ça fait 30 ans qu'on alerte et maintenant on voudrait faire bouger les choses. Et donc c'est l'occasion de dire qu'avec les gens de l'IPSL, donc les 1400 climatologues de France, avec Hervé Le Treut, qui est un des successeurs de Jean à la direction, on organise bientôt un événement pour rassembler tous ceux et celles de tous les pays qui veulent que l'Europe accélère vraiment. C'est le 19 février à Paris, à Jussieu. Donc s'il y en a qui habitent parmi ceux qui nous entendent, vous êtes les bienvenus. On aura des gens de gauche et de droite, des syndicalistes, des jeunes, des vieux. Et on a invité Emmanuel Macron pour faire la conclusion en disant: Monsieur le Président, est-ce que vous reprenez ce projet? Donc c'est le 19 février, et pour soutenir notre projet ou pour vous inscrire, vous allez sur pacte-climat.eu, pacte-climat.eu, et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Vraiment, il faut que les citoyens s'engagent. On ne peut pas dire Trump est nul, on ne peut pas dire Merkel et Macron sont décevants si nous-mêmes, on ne fait pas le maximum.
Dernier point, Pierre Larouturou et Jean Jouzel, dans votre livre, vous pensez que ce pacte climat, pour être initié, doit passer par un référendum pan-européen?
On reprend l'idée de Habermas, le grand philosophe allemand, qui dit que l'Europe va mourir si elle n'a pas un nouveau projet, et que l'Europe va mourir si elle a peur des peuples. Et Habermas dit, le prochain traité, il pourrait être approuvé par référendum, et que ce soit le même jour. Comme ça, c'est pas un référendum pour ou contre Macron, pour ou contre Merkel, pour ou contre Salvini. Ce serait, on demande à tous les peuples d'Europe, est-ce que vous avez envie qu'on prenne le taureau par les cornes, qu'on finance massivement des créations d'emplois? Voilà. Et au début, quand Habermas a donné cette idée, c'était un accueil très froid, parce que depuis la fin du nazisme, il n'y a eu aucun référendum en Allemagne, comme vous le savez. Et puis, au bout de quelques semaines, Merkel, Schäuble et les dirigeants de tous les partis ont dit, après tout, pourquoi pas? Si l'Europe a peur des peuples, c'est foutu. Donc n'ayons pas peur des peuples. Et si c'est le même jour ou la même semaine, il y en a qui votent le jeudi, il y en a qui votent le dimanche, ça aurait de l'allure, ça aurait de la gueule. On aurait un débat passionnant sur le climat. Chacun de nous devrait dire, est-ce que c'est cohérent? Je vais voter oui au référendum, mais je continue à prendre l'avion pour partir en vacances. Voilà, donc il y aurait un vrai débat de société. Et puis derrière, on saurait que ces outils se mettent en place au bout d'un an, de 18 mois, et on réglerait les problèmes de compétences et on se mettrait au boulot.
Et s'il y a un échec dans un pays?
Ils pourront décider de ne pas venir, ils viendront plus tard. Schengen, on a commencé à 5 pays. Vous connaissez l'histoire comme moi. Pour Schengen, on a commencé à 5 pays. Pour la monnaie unique, on a commencé à un petit nombre. Et tous ceux qui le veulent seront les bienvenus pour nous rejoindre plus tard.
Alors, vous parliez tous de cette nécessité du mouvement citoyen et que l'on perçoit grandement. On en parlera la semaine prochaine, d'ailleurs, en s'intéressant aux jeunes. Je propose d'écouter ce document. C'est un reportage qui a été diffusé le 29 mai 2014. Donc, ça fait déjà quelques années que des citoyens ont choisi de gérer leurs économies de façon plus responsable. Peut-être que ça passe par là également. Écoutez ce reportage. Donc, Banque Éthique rencontre avec une cliente et sa banque éthique en banlieue lyonnaise.
Ici, l'argent des épargnants sert uniquement à financer des projets concrets, créateurs d'emplois. Hors de question pour la banque d'investir dans le tabac, l'armement ou le nucléaire. Cette retraitée et son mari ont quitté leur banque classique. Le couple savait ce dont ils ne voulaient plus.
C'est d'avoir une banque qui spécule, qui va en bourse, par laquelle on risque de perdre de l'argent, et puis de savoir que ça peut partir n'importe où dans les paradis fiscaux.
Depuis 2007-2008, la crise, on a vu vraiment une explosion de nombre de personnes qui nous découvraient en faisant des recherches sur Internet, en se disant, tiens, est-ce qu'il existe autre chose que le système bancaire qui me proposait ?
Dans ce livret, Odile Belgrano choisit ce qu'elle souhaite financer. Elle a par exemple déjà investi dans cette entreprise de matériaux de construction. Son placement est rémunéré à hauteur de 1,5%, un peu plus qu'un livret A. Aujourd'hui, des mutuelles, des fondations, des caisses de retraite, des collectivités locales souhaitent investir leur argent autrement. Il existe une trentaine de banques éthiques en Europe. Avec elles, de nouveaux métiers arrivent sur le marché.
Une réaction les uns les autres. Donc ces citoyens, alors, ont-ils leur propre rôle à jouer, Benoît Le Guay ?
La question qu'on peut légitimement se poser quand on est un épargnant, même modeste, c'est finalement dans quel monde investissons-nous ? Et la réponse à cette question est loin d'être évidente. C'est-à-dire, si vous voulez rire, allez voir votre conseiller bancaire ou financier ou autre et demandez-lui, mais décrivez-moi qualitativement le monde dans lequel je suis en train d'investir. En tout cas, aujourd'hui, l'information est très, très, très difficilement disponible. Je parle en connaissance de cause. J'ai vraiment du mal à trouver les informations pour mes propres tout petits investissements.
Alors que c'est un droit, je crois. Pierre Larouturou.
Pousser les banquiers à réfléchir et éventuellement boycotter, c'est une façon non violente de faire bouger les choses. Moi, c'était ma première action militante. Quand j'étais petit, il y avait des campagnes pour dire qu'on n'achetait plus les pamplemousses et les oranges qui venaient d'Afrique du Sud. Voilà. Et quand Mandela est sorti de prison, il a remercié tous ceux et celles qui avaient boycotté Outspan, si ma mémoire est bonne, tous les fruits qui venaient d'Afrique du Sud. Et donc, de façon non violente, c'est une façon de dire aux dirigeants économiques, arrêtez. On ne vous demande pas de vous suicider, on ne vous demande pas de vous pendre, on ne vous demande pas de fermer vos entreprises demain. Mais est-ce qu'une banque, parce qu'en même temps, on va jouer sur les règles du jeu, ce qui se décide dans les organismes de régulation dont parlait Benoît, et en même temps que si toutes les semaines, il y a des gens qui viennent dire où va mon argent, j'aimerais, et sinon je vais au crédit coopératif ou à la nef, eh bien c'est une façon de faire bouger les choses.
Jean-José, oui, le mot de la fin.
Il y a aussi une autre façon où le citoyen, chacun d'entre nous, pouvons nous investir. D'ailleurs, un exemple très récent de 2 millions de signatures sur la pétition « L'affaire du siècle ». Il y a ces marches du climat où j'espère que nous serons de plus en plus nombreux. De façon à simplement à dire cette nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, cette urgence, nous pouvons le dire aussi. Nous avons, je crois, en tant que citoyens, des façons de nous exprimer. Évidemment, chacun ici d'entre nous, nous avons aussi, je crois, à le faire à travers... disons notre activité de tous les jours, mais aussi pratiquement notre activité professionnelle, puisque c'est un peu aussi à travers, je suis chercheur dans le domaine, c'est aussi témoigner de la réalité du réchauffement climatique, mais chacun d'entre nous a, aussi bien comme citoyen, mais dans sa vie, beaucoup dans leur vie professionnelle, des choses à faire pour participer à cette lutte contre le réchauffement climatique.
Merci à tous les trois. Je rappelle le titre de votre livre, Jean Jouzel, Pierre Larouturou, écrit avec Anne Essel, Finance, Climat, Réveillez-vous. Livre édité chez Indigène. Le site de I4CE sera sur le site de l'émission pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre think tank, Benoît Le Guay. Et puis merci aussi à Camille, notre stagiaire du jour. Information, bibliographie, les liens, la revue de Web Environnement, les plus les moins de la semaine sont à retrouver sur le site de l'émission comme d'habitude, franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Vous pouvez télécharger, réécouter l'émission à loisir, nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet, et puis aussi sur notre page Facebook. Dimanche prochain, nous questionnerons la place prise par la jeunesse dans ce débat climatique, politique et environnement. Les jeunes vent debout. Et dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur France Culture. Ne ratez pas Être et Savoir et Louise Touré.